Jean 12. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare et qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un repas. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un livre une livre, c'est-à-dire un demi-kilo, quoi. D'un parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur de parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. J'aimerais, dans le cadre de ce que Hélène nous a apporté sur la reconnaissance, rester dans ce sujet de reconnaissance. Au travers de ce passage que nous avons lu, qu'on pourrait lire ou interpréter de différentes manières, j'aurais resté dans la reconnaissance. Dire merci, c'est être reconnaissant, vous êtes d'accord. Dire merci, c'est un acte simple de reconnaissance. Et dire merci à Dieu, c'est simple, même si certaines personnes attendent parfois des années pour pouvoir le faire, pour dire merci à Dieu. Il y a d'autres façons d'être reconnaissant, on en parlera à la fin, mais je trouve que dans ce passage, eh bien, on a vraiment un acte de reconnaissance qui peut nous parler, nous interpeller. Il est question là de Marie de Béthanie. En fait, Marie, il y a quatre Maries, donc on s'y perd un petit peu. Et d'ailleurs, dans l'Église catholique, qui elle a une histoire très longue, hein, contrairement à l'Église protestante, il y a eu une confusion, parce que c'est vrai, suivant les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y a parfois un manque de précision sur de quelle Marie il s'agit. Parce qu'en fait, il y a quatre Maries. Il y a trois Maries. Enfin, bon, il y a la Marie que vous connaissez qui a donné naissance à Jésus. Hein, celle-là, il n'y a pas d'ambiguïté quand on en parle. C'est l'épouse de Joseph. Mais les trois autres Maries, elles sont désignées par le lieu. Marie d'Aubergenville, par exemple, vous voyez. Donc c'est par le lieu. Donc c'est Marie de Béthanie. Donc Béthanie, c'est un endroit, un village. Hein. Marie de Magdala. Vous savez où est Magdala? C'est au nord d'Israël, au lac de Galilée, Magdala, et Marie de Naïn, N-A-I-N, qui, je ne me rappelle plus exactement, c'est aussi en Galilée, mais je ne sais plus exactement, c'est plutôt à gauche. Voilà. Donc vous voyez, ce sont ces trois Maries qui, de temps en temps, interviennent dans l'histoire des évangiles. Marie de Béthanie, c'est la sœur de Lazare. Alors, tout le monde connaît Lazare, hein, puisque Jésus l'a ressuscité d'entre les morts. Et Lazare avait deux sœurs, donc Marthe et Marie. Et on connaît ce texte très fascinant, parce qu'on parle beaucoup de Marthe, qui s'agitait beaucoup autour de Jésus, et Marie était à ses pieds. Donc, c'était Marie de Béthanie. Il y a aussi la Marie de Magdala, qui est une femme très aisée, on pourrait dire une aristocrate hein, de l'époque, hein, qui était très... Voilà. Et Marie de Naïn, c'est la fameuse prostituée qui était libérée des démons, etc., et qui était la femme pécheresse. Il se trouve que juste en passant, hein, je m'insisterai pas là-dessus. Ces trois Maries font l'objet d'une légende qu'on appelle Marie-Madeleine, qui a été mise en œuvre dans le Da Vinci Code sur les trois divinités féminines. Quelque part, vous voyez, c'est toute une histoire de gnose, d'ésotérisme, etc., qui se balade là, vous voyez. Et en fait, ce sont ces trois Maries qui ont été, à cause d'un manque de précision, un petit peu utilisées à des fins d'histoire un peu louche, mais que beaucoup de gens regardent, parce qu'il y en a beaucoup qui vont au cinéma, pour apprendre des choses qui sont totalement fausses sur la Bible. Donc là, on est en face de Marie de Béthanie, la sœur de Lazare. Nous voyons Marie, à cet endroit-là, au pied de Jésus, qui écoute sa parole. Marthe, sa sœur, s'indigne de ce que Marie ne l'aidait pas à servir. Et elle a fait la remarque à Jésus. Elle n'a pas gardé ça dans son cœur, tout de suite, elle le dit à Jésus. Ouais, Marie, voilà, elle ne m'aide pas, etc. Et Jésus dit que Marie a choisi la bonne part. Donc voilà, Jésus tranche sur la remarque de Marthe. Plus tard, lorsque Jésus vint pour ressusciter Lazare, le frère Marie de Béthanie, Marie se jette à ses pieds et lui dit « Si tu avais été ici, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. » Nous savons que Jésus a ressuscité Lazare. On peut lire ces événements dans le passage de Jean, chapitre 12 aussi, où là, on voit cette attitude de Marie après la résurrection et elle vint pour offrir un parfum de très grand prix. On verra tout à l'heure à peu près le prix que ça coûtait. Marthe sert toujours à table et Marie est toujours au pied du Seigneur. C'est étonnant. Chaque fois, Marie adopte cette attitude d'être au pied de Jésus. Et Judas, donc le voleur, là, on explique bien qu'il tapait dans la caisse. Voilà, donc il est caractérisé par ce qui il est. Il s'indigne, étonnez-vous, il s'indigne de ce que Jésus ne reprend pas Marie, hein, et qu'il s'indigne de cette marque de reconnaissance. Marie a une reconnaissance envers Jésus parce qu'elle offre un parfum de grand prix. Cela montre qu'exprimer sa reconnaissance peut énerver certains. Hein? Là, déjà, c'est un premier enseignement, que quand on fait une moving glad, voilà, ça énerve quelqu'un. Ça énerve déjà l'ennemi, hein? Mais le problème, c'est que l'ennemi a d'autres personnes qui l'influencent parfois, et ça crée des mouvements de foule. Et là, voilà, ça se manifeste par Judas, qui s'énerve contre Jésus et le lui dit. Marie était tellement reconnaissante de ce qu'avait fait Jésus. Imaginez qu'il a ressuscité Lazare, son frère. Et sa reconnaissance, c'était d'être attentive à Jésus, d'être disponible pour Jésus. Et son humilité, qui est une marque très importante de chrétien, son humilité, pas une vraie humilité, pas une fausse humilité, eh bien, était un fruit. C'était le fruit de cette reconnaissance. Vous ne pouvez pas être régulièrement reconnaissant. Quelqu'un peut dire merci comme ça, voilà, sous la pression. Mais être reconnaissant dans la durée, reconnaissant au Seigneur, reconnaissant même dans les difficultés, comme Michel a parlé ce matin, dans les épreuves, hein, on ne se réjouit pas des épreuves, mais on se réjouit dans les épreuves. Eh bien, si vous êtes orgueilleux, vous ne pouvez pas le faire. C'est pour ça qu'en tant que pasteur, on voit certaines choses, quand on reste un peu, il y a dans certaines églises, des pasteurs font 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans maximum, on voit pas grand-chose. En tout cas, on voit pas grand-chose, ou si on voit quelque chose, à la cinquième année, on se dit, bon, moi, dans 2 ans, je suis plus là, ce qu'un pasteur, d'ailleurs, m'a dit, tu sais, en vrai, moi, je reste pas, voilà, donc, bon, après moi, le déluge, bon, il y a quelqu'un d'autre qui reprend. Et donc, du coup, on voit pas grand-chose. Mais quand on reste un peu, comme c'est mon cas, Michel, on voit des choses. Et c'est pour ça qu'on prend les choses au sérieux aussi. On ne laisse pas les gens, parce qu'on sait que si on ne prend pas les choses à la racine, on n'aide pas les gens. Vous voyez, on fait de la diplomatie, mais c'est pas ça qui avance, comme dirait l'autre, le schmilblick. Si on veut vraiment changer, il faut être humble. Et l'humilité se voit quand les gens sont reconnaissants à long terme. Vivre et marcher dans la reconnaissance implique une notion très importante d'humilité. Marie avait été tellement touchée par le mystère de Jésus qu'elle aurait certainement vendu tous ses biens. Elle était prête à vendre tous ses biens. Et elle a fait une offrande au ministère de Jésus. Vous me direz, bon, non, ce n'est pas une offrande, c'est du parfum. Ah oui, mais vous savez qu'à l'époque, offrir du parfum était une offrande habituelle. Il n'y a pas très longtemps, encore chez nous, au Moyen-Âge, ce que je disais souvent à mes petites filles, il n'y avait pas d'argent. Il y avait cédé le sel. Hein, on prenait du sel et on payait avec du sel, hein, la route du sel. Voilà. Et bon, il y avait d'autres éléments. Maintenant, c'est l'or qui est la base au niveau mondial, mais à l'époque, c'était le sel, ou là, c'était du parfum. Si vous lisez Exode, je vous donne deux passages d'Exode, Exode 30, verset 35, qui dit que tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur, il sera salé, pur et saint. Donc il fallait faire un parfum. Et dans le verset 1er du chapitre 30, tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. L'offrande de parfum était quelque chose de divin au départ, et a été repris par les peuples païens, comme par exemple dans 1 Roi, chapitre 11, verset 8. Et il fit ainsi pour toutes les femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Offrir des sacrifices avec du parfum. Donc on peut dire que Marie de Béthanie a fait une vraie offrande selon l'alliance sous laquelle Marie vivait. Marie vivait sous l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament est apparu à la Pentecôte, à la résurrection de Jésus et à son ascension. Dans la Nouvelle Alliance, depuis la résurrection de Jésus, on voit que les chrétiens et les disciples de Jésus donnent de l'argent principalement. On l'a vu tout à l'heure, où les Macédoniens, les chrétiens macédoniens donnaient de l'argent pour les chrétiens de Jérusalem. Alors, on va se poser la question, de quelle offrande Marie a donné en termes d'argent? Est-ce que vous avez une idée de prix, par exemple, si on le ramène au prix actuel? Combien représentait ce parfum de nard qu'elle a versé au pied de Jésus aujourd'hui? Alors, donner des chiffres. Pardon? 200 000 euros, c'est ça? Non, non, mais chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Hein. Rémi dit 200 000. Quelqu'un d'autre? Pardon? 700 000, voilà. Alors, voilà, les enchères n'ont pas commencé à zéro, hein, ils ont commencé à 200 000. Qui dit mieux? 20 ans de salaire d'un ouvrier, c'est ça? Ouais? Ben, vous n'y êtes pas du tout, mais je vais vous le dire, puisque voilà, c'est 15 000 euros. 15 000 euros, voilà. En général, les gens disent pas beaucoup. Là, vous avez, voilà. Mais bon, il y en a toujours. On suit un petit peu celui qui démarre. Donc, c'est 300 jours de travail. C'est à peu près une année. Une année de travail. Parce qu'à l'époque, il travaillait aussi le samedi, donc il travaillait 6 jours sur 7. Voilà. Donc, ça fait à peu près 300 jours, hein, vous voyez, sur une année. Donc, j'ai fait le calcul, c'est à peu près 50 euros par jour qu'on gagnait, et 6 euros de l'heure. Aujourd'hui, le SMIC est à 10 euros. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit peu en dessous du SMIC qu'on gagnait à l'époque, un salaire moyen, hein, un peu plus. Donc 15 000 euros, ça représente 300 jours de travail sur une année. Voilà, c'est à peu près ce que ça représente. Alors vous avez remarqué que Judas, donc le voleur, et qui ensuite a trahi Jésus, ensuite après, il dit, il reproche à Jésus qu'il n'ait pas repris Marie pour le donner aux pauvres. Effectivement, 15 000 euros pour les pauvres, c'est une bonne somme. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose, cette remarque de Judas à Jésus? Les pharisiens. Effectivement, Judas était en train de reprendre une parole de Jésus, comme si on pouvait reprendre Jésus sur sa parole. Bah oui, il l'a fait. Et il voulait le faire, pourquoi ? Pour passer pour spirituel. Ça ne vous dit pas quelque chose ? Vous voyez, il y a des chrétiens qui veulent se faire passer pour spirituel. Vous savez, quand on a un peu de discernement, on voit tout de suite ceux qui veulent être spirituels ou se faire passer pour spirituels, qui ne sont pas spirituels. Et là, Judas, et pourquoi est-ce qu'on peut dire ça ? Eh bien, parce qu'il voulait contredire une parole de Jésus, il veut être plus spirituel que Jésus. Voyons donc. Et effectivement, les pharisiens, ils le faisaient pour piéger Jésus. Vous voyez, l'intention, c'est de piéger Jésus. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on voit les fruits de ces gens-là. C'est qu'au lieu de respecter la parole de Jésus, ils pensent qu'en étant spirituels, ils parlent aux autres, bien sûr, qu'ils l'entendent, aux autres disciples, d'autres ses collègues, hein, pour dire « Ah, moi, je sais plus que Jésus. Regardez, Jésus se contredit. » Et comment est-ce qu'il s'y prend ? Eh bien, il prend c'est l'esprit des pharisiens. Dans Matthieu 19, verset 21, Jésus dit lui-même « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Est-ce que c'est Jésus qui l'a dit ? Voilà. Donc, effectivement, il prend ce verset. Vous voyez ? C'est pour ça que les personnes qui prennent un verset hors du contexte, c'est justement un prétexte. Marie avait en fait peut-être vendu tout ce qu'elle possédait, on ne sait pas. En tout cas, la veuve, dans Luc 21, vous savez, la pauvre veuve qui met une pièce, là, elle était appréciée de Jésus à cause du cœur qui était derrière l'offrande. Et il le fait remarquer à tous les pharisiens en disant, regardez, cette veuve, elle met une pièce. Mais c'est beaucoup plus que tout ce que vous pouvez mettre et qui ne représente pas tout ce que vous avez. La veuve avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et ça renvoie aussi à la veuve de Sarepta, hein, où Élie est allé la voir, hein, et lui a demandé de tout donner, et du coup, derrière, il y a eu le miracle qui s'est fait. Elle avait dû entendre Jésus dire cette phrase au jeune homme riche, donc je parle de Marie de Béthanie, et elle voulait se donner entièrement à Jésus. On connaît des personnes comme ça, hein, qui sont tellement touchées par le Seigneur qu'elles sont prêtes à tout lui donner pour lui obéir. Et Judas a fait le lien directement en voyant ce qu'avait fait Marie. Et en disant cela, en fait, à Jésus, tu as dit tout vendre pour donner aux pauvres. Il voulait dire, mais Marie, elle a gâché cet argent, puisqu'elle ne l'a pas donné aux pauvres. Voyez-vous ? C'est ça que Judas voulait reprocher à Jésus devant tout le monde. Tu as gâché cet argent. Vous savez, les disciples n'étaient pas nés de nouveau à l'époque, hein, parce que la nouvelle naissance, c'est après la Pentecôte. Et les murmures, les questionnements pouvaient aller bon train. Si Jésus n'avait pas répondu devant cette accusation de Judas, les disciples ne se seraient pas privés de dire « Ouais, c'est vrai, Marie a tout gâcher cet argent, et Jésus n'a rien dit. » Jésus se met-il vraiment en peine pour les pauvres ? Vous voyez la manière dont l'ennemi joue pour faire croire, hein, quelque chose que Jésus n'a pas dit. Jésus, d'un côté, a dit faut donner aux pauvres, faut prendre soin des pauvres. Et là, pourquoi ? Parce que Jésus est Seigneur, il fait ce qu'il veut. Et les pharisiens et les gens qui, les chrétiens dans la chair, ils sont dans les lois. C'est ça, 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 ça. Et si jamais, paf, voilà. Mais Jésus est dans l'esprit de la loi. C'est pour ça qu'on ne peut pas suivre Jésus dans une relation avec lui, dans un christianisme de relation, si on n'est pas dans l'esprit de la loi. Si on est dans la loi, on se plante complètement. Mais Jésus, au contraire, devant cette attitude de Marie, il a agréé, il a donné du crédit à ce que Marie avait fait. Parce qu'il a vu son cœur, il a vu qu'elle donnait tout ce qu'elle avait pour Jésus, pour lui être reconnaissant, pour lui dire merci. et il a défendu l'acte de reconnaissance de Marie. En fait, suite à cela, vous savez, on disait de Marie qu'elle était celle qui a oint de parfum le Seigneur et lui essuyé les pieds avec ses cheveux. C'est Jean chapitre 11 qui le dit. Quand on voyait Marie, on se rappelait de cet acte de reconnaissance. Faire une offrande peut être un acte de reconnaissance concret. Le Seigneur ne vous a-t-il jamais parlé d'un acte de reconnaissance? S'il l'a fait, faites-le. Obéissez au Seigneur. Et même si ça vous coûte, parce que d'une part, vous allez être béni, mais vous allez bénir, bien sûr, celui qui va être au bénéfice de votre acte. Dans Jean 14, verset 15, il est dit, « Si vous m'aimez, c'est Jésus qui parle, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Vous pouvez être reconnaissant à vos parents et au Seigneur en mettant tout votre cœur à lui obéir. La reconnaissance est un style de vie, est une façon d'être qui peut se démontrer par l'obéissance. Des enfants obéissants, bon, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais c'est souvent, hein, ce sont des enfants reconnaissants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont, s'ils sont désobéissants, ils ne sont pas reconnaissants. Mais voilà, l'obéissance, c'est quand même un caractère de reconnaissance par rapport aux parents et pour nous, par rapport à Dieu. Regardez Jésus, il a obéi jusqu'à la mort, on le lit à chaque fois lorsqu'on est à la Sainte Cène. Dans l'Ancien Testament, donc sous l'alliance de Marie, hein, avant la résurrection de Jésus, la notion de cadeau, de présent, d'apporter quelque chose, est très, très fréquente. Hein. L'action d'offrir un cadeau doit aller de pair avec notre cœur. Si notre cadeau ne reflète pas notre cœur, cela tournera en malédiction. Nous voyons le frère de Joseph offrir, quand ils viennent devant Joseph en Égypte, des présents. Jacob et tous les autres serviteurs de Dieu le font de même. Offrir un cadeau est une bénédiction pour celui qui la reçoit, bien sûr. Et dans l'Ancien Testament, on s'offrait des cadeaux. Souvent, car on connaissait la valeur et le statut de l'autorité, de la position d'une personne à qui on offrait ce cadeau. Et on s'était inspiré par l'amour et ça apportait une vraie bénédiction. Dans Proverbes, chapitre 17, verset 8, c'est pas toujours traduit de la manière dont je vous le dis, mais une des traductions dit « Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. » Alors l'application qu'on fera, on s'arrêtera là. Si votre reconnaissance s'adresse aux gens, eh bien aimez-les. Ne faites pas juste un cadeau comme ça, mais un cadeau qui vient de votre cœur. Il est marqué « Femme, aimez vos maris pour ce qu'il représente, pour ce qu'il est, pour sa protection, pour tout ce qu'il fait pour vous de bon pour la famille. » Ou Marie, aimez vos femmes pour ce qu'elles représentent, pour son dévouement, le bonheur qu'elles vous apportent, pour la sagesse, pour tout ce qu'elles font de bon, pour vous, votre famille, soyez reconnaissants. Et dans Hébreux, il est dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable avec piété et avec crainte. Et dans Romains aussi, il est dit d'offrir tout à Dieu, d'offrir vos corps en vivant sacrifice sur l'autel. Voilà. Quelques autres, donc là, on a vu cette reconnaissance de Marie. Il y a bien d'autres manières d'être reconnaissant. Simplement un sourire. Si vous souriez à quelqu'un, peut-être qui vous fait du mal, ou voilà, c'est aussi être reconnaissant. Avoir un geste, une attention, hein, amicale. Une carte postale, si vous êtes en vacances, un coup de téléphone, un bouquet de fleurs. Vous voyez. Prier pour les autres, c'est aussi être reconnaissant. Leur écrire une lettre ou une chanson, hein, pourquoi pas, en faisant quelque chose qui vous coûte. Et en donnant des nouvelles, ou en prenant des nouvelles, peut-être de Marc, hein, qui va nous quitter, mais on peut prendre des nouvelles. Et en honorant cette personne devant les gens, ou pas devant les gens, peu importe, en les honorant. Le Seigneur vous montrera toutes les façons d'être reconnaissant. Et la vraie reconnaissance est un style de vie, c'est une attitude intérieure. Et vous pouvez également poser des actes de reconnaissance, mais c'est à partir de votre cœur, à partir de notre cœur, que démarre l'acte de reconnaissance et le merci qui va toucher les cœurs. Amen. Seigneur, nous te prions de nous aider à être reconnaissants, comme l'exemple de Marie de Béthanie, qui, Seigneur, est louée encore aujourd'hui pour cet acte qu'elle a fait, qui a marqué les esprits, mais qui a agacé Judas. Seigneur, nous ne voulons pas être comme Judas. Nous voulons, Seigneur, être reconnaissants. Et voir, Seigneur, que toi, tu juges les choses, non pas comme nous le jugeons, mais tu le fais, Seigneur, à partir de ce que tu vois dans les cœurs. Et, Seigneur, c'est toi qui es le maître. Et nous voulons nous soumettre à toi. Et être obéissant, qui est aussi une marque de reconnaissance. Parce que nous croyons que, Seigneur, si nous t'aimons, nous allons obéir à tes commandements. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen.